19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver. Mouf, là, il fait chaud, paraît-il, dans le studio. Bon, heureusement qu'on les a rattrapés par la clim. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez. C'est parti pour une seule folle semaine de décryptage, d'analyse et de commentaires, justement dans les informés, puisque nous sommes là tous ensemble, de plus en plus, justement. Et c'est même une heure d'émission jusqu'à 20h. Alors c'est parti, au menu, au sommaire, ce que je vous propose. Covid-19. Le bilan en 40 questions. Tiens, retour sur 2 ans d'infant ou d'intox. On va essayer de parler, d'éviter le complotisme quand même. Clochette. Parce que Claude Janvier est notre invité. Je ne veux pas sombrer, évidemment, dans un bilan qui risque d'accabler certains. Clochette. Eh bien, vous saurez tout, toute la vérité, rien que la vérité. Il paraît qu'on va apprendre des choses. Bon, bah, j'ai lu le livre. Hein. Oui, bon, je m'interroge toujours, justement. Heureusement que Claude Janvier est là. Les sujets qui nous attendent. Alors, les législatives. Manuel Valls, Manu. Bon, Manu, faut peut-être arrêter de faire de la politique, non? Ça vous réussit pas, mon cher Manu. L'Espagne, Barcelone, la France, la campagne législative. Bon, ça fait quand même une gifle, tout ça. On va en parler. Bon, on va en parler, mon cher Manu, parce que ça mérite qu'on s'attarde dessus. Alors, il paraît qu'il y avait une faible mobilisation générale aujourd'hui quand on parle de la crise des hôpitaux. Ben alors, les aides-soignants? Bon, il va falloir revoir la mobilisation peut-être. Mais bon, on va en parler. Autre sujet qui aussi retient notre attention. 3 policiers libérés, sans poursuite. Un conducteur, le conducteur en garde à vue. Le refus d'obtempérer à Paris. Et puis surtout... La police tue. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, on reviendra sur ces 3 sujets d'actualité. Et enfin, Faïza Gen et Faïza Ben Mohamed. Pourquoi je parle de Faïza Gen? Elle va m'écouter, elle va me tuer, Faïza Gen. Hein. Si tu nous écoutes, Faïza Gen, je te salue. C'est l'écrivaine. Faïza Ben Mohamed et sa signature du Quad 9. Justement, elle viendra nous parler de la police qui tue et puis justement des forces de l'ordre. Ce sera son regard tout à l'heure, très aigu, à 19h30. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés, avec Adil Farkan.
Allez, tout de suite, l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
L'interview, vous le savez, c'est avec Claude Janvier. J'en parlais, justement, il y a quelques secondes, en présentant le sommaire. C'est parti. C'est parti, oui, bien sûr. L'invité, le jingle.
Les informés, l'interview. L'interview.
C'est le direct, hein, le temps que Yanis dégaine. Il a droit à une clochette, tiens. Voilà. Paf ! Claude Janvier, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Oh, ben, très bien. Depuis la dernière fois, je suis venu chez vous, parfait.
Absolument. Claude Janvier, vous avez coécrit un livre avec Jean-Louis Zambert, le Covid-19, le bilan en 40 questions. Retour sur 2 ans d'infos et d'intox. Ça m'a interpellé, ça, quand même. Hein. Le virus et le président. Pourquoi écrire ce livre, mon cher Claude Janvier?
Eh bien, parce que on se disait qu'il était grand temps, après 2 ans de torrent d'informations qui sont parties dans tous les sens, il était grand temps de tirer le bilan. En fait, ça nous a été suggéré par les gens qu'on a rencontrés ici et là, en faisant les courses, en discutant dans un restaurant, en discutant avec une caissière d'un supermarché. En fait, on s'est rendu compte du grand désarroi,
oui, oui,
dans lequel beaucoup de gens étaient plongés avec toute cette affaire de crise sanitaire. C'est-à-dire que les gens sont perdus.
C'est quoi
beaucoup
ce désarroi? C'est des chiffres inexacts, comme vous en parlez dans votre livre. Par exemple, page 45, vous dites « Le ministère de la Santé diffuse-t-il de fausses informations ?» Comment Santé publique diffuse des chiffres inexacts? Comment vous êtes, comment à la fois on peut accabler d'un côté et prouver de l'autre?
Bah, remarquez, je me suis penché sur le rapport donc de Santé publique France du 1er avril 2021 qui donnait des chiffres donc de mortalité en un an, donc de mars 2020 au 1er avril 2021. Et c'est en toute lettre dans leur rapport, page 43, tableau 10, j'ai fait état de 14 400 décès impliqués au Covid seul.
Oui, vous le dites, le ministère Véran inaugure inaugure justement la mort par suspicion.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Bon.
C'est tout à fait ça, parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, on était submergé par une information. Les médias disaient il y a plus de 100 000 décès. Or, en réalité, Santé publique France, à même date, dit bah, il y en a 14 400 imputés au Covid seul, plus 27 000 à peu près qu'on en rajoute avec, mais pas imputés uniquement au Covid seul parce qu'ils présentent des comorbidités. Et on est toujours très loin des 100 000 décès. Puis après, plus tard, dans ce rapport, on est...
Mais,
c'est eux qui le marquent, hein, c'est pas moi. Hein.
Mais dites-moi, dites-moi, Claude Janvier, je vous pose une question cash, claire et nette, précise. Pour quelle raison, j'ai le sentiment, moi, que votre ouvrage, il est quand même à charge. Pour quelle raison vous avez pris parti, justement, de dégommer, mais vraiment tout, la tromperie sur le résultat des tests PCR, le vaccin qui provoque des effets secondaires, des statistiques très orientées. Pour quelle raison?
Ben, c'est la raison, c'est, vous savez, chez l'enquête et l'investigation. En fait, ce livre, puisque vous l'avez lu, ce ne sont pas nos opinions, ni à Jean-Louis, ni à moi. C'est le résultat d'enquêtes minutieuses. On a travaillé pendant 2 ans, lui et moi. On a interrogé des journalistes scientifiques, des scientifiques. On a étudié tout un tas de rapports de l'INSEE, de l'AFNOR, etc., etc. Et bah oui, je suis désolé de dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de tromperies sur cette affaire. Il y a eu beaucoup d'infos et d'intox.
Beaucoup d'infos, beaucoup d'intox. Justement, vous dites que la France est l'un des pays qui est vraiment le plus démuni face au Covid-19. Vous vous appuyez sur quoi précisément? C'est quoi la véracité des sources?
Bah, la véracité des sources, c'était déjà le pilonnage systématique du budget alloué aux hôpitaux publics. Hein. L'UE ayant ordonné à tous les pays de l'UE, la France s'est empêchée de le faire. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup, malheureusement, et c'est navrant, beaucoup moins de lits dans les urgences et dans les services de réanimation. Donc, souvent, ces services sont débordés. Ce sont les soignants qui sont obligés de travailler comme des fous pour arriver à se relever.
Oui.
C'est pas un peu bizarre, si vous voulez aussi, c'est que, à l'époque où la COVID-19 battait son plan, Emmanuel Macron n'a jamais réquisitionné les cliniques privées. Ça, c'est quand même assez incroyable.
Ouais, incroyable. Et en même temps, vous savez, beaucoup se posent la question et je vous la pose.
Oui.
Parce que vous faites la comparaison avec le vaccin russe Sputnik 5.
Sputnik, oui.
Et vous faites la comparaison notamment avec les vaccins des produits à ARM. Alors, absolument. Ma question est très claire. Certains soupçonnent que si vous parlez comme ça, c'est que, évidemment, vous êtes les ambassadeurs de la Russie. Vous répondez quoi? Je vous pose la question parce que, évidemment, j'ai un peu gratté et essayé de comprendre tout cela. On va essayer d'éclaircir tout cela avec vous en direct. Vous répondez quoi?
Bah, je réponds, d'un côté, il y a des vaccins ARN messager. Alors, l'aperçu technique de l'ARN messager est peut-être très bien, mais en ce qui concerne les vaccins ARN messager, il y a des doutes, puisque ces liquides expérimentaux, ce sont des liquides expérimentaux, toujours en essai et en phase clinique, en essai phase 3, jusqu'en donc 2023. Donc, on a injecté des produits à la population, à l'ensemble de la population, et ce sont toujours des produits en essai clinique. On a pris comme exemple...
Oui, mais quand même, tout de même, Claude Janvier, vous mettez en comparaison la supériorité du vaccin russe Sputnik. Vous dites, en gros, le Sputnik, voilà, ça passe très bien, et le reste, vous le dégommez.
Ben, parce que
la question, là, pourquoi? Est-ce que vous êtes les représentants, justement, du Sputnik? Est-ce que vous avez été, à un moment donné, peut-être, je vous pose la question, mandaté pour, évidemment, vanter le vaccin russe?
Alors, nous ne sommes ni Jean-Louis ni moi mandatés pour vanter le vaccin russe. On a pris cet exemple parce que le vaccin russe est un vaccin classique et qui n'est pas un vaccin ARN messager. On aurait pu prendre un vaccin indien, il y en a, qui est un vaccin classique aussi. On aurait pu prendre comme exemple deux vaccins chinois, qui sont aussi des vaccins classiques. En Europe, on nous a imposé des vaccins ARN messager. On a plus le choix, hein. On nous a pas laissé le choix. C'est là le problème.
Oui.
Après, les vaccins classiques ont fait leur preuve. tous les innombrables vaccins que nous recevons quand nous sommes enfants sont là pour le prouver.
Oui.
Mais le vaccin ARN messager, c'est le grand point d'interrogation.
Oui.
Personne n'est en mesure aujourd'hui de dire s'il n'y aura pas des effets secondaires à court, moyen et long terme.
Claude Janvier, tout est passé au crible. Hein. Les vaccins, sont-ils dangereux? Faut-il se faire vacciner? En réalité, votre livre, qu'est-ce qu'il a comme objectif, justement? Interpeller qui et pourquoi?
Renseigner les gens pour qu'ils sachent à peu près à quoi ils peuvent s'attendre avec une épidémie qui nous est tombée dessus depuis 2 ans. Ça sert à répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Moi, si vous voulez, quand je vois des gens qui aujourd'hui portent encore le masque bleu chirurgical dans la rue, bien évidemment que ça me pose un problème, puisque ce masque bleu, il est prouvé, et ça a été prouvé par la FNOR, qui est un organisme tout à fait c'est un organisme français, scientifique, etc., que le maillage du masque bleu est trop gros pour retenir le coronavirus. Alors, pourquoi on oblige tout le monde à porter un masque bleu qui, pour le coup, ne protège pas du coronavirus? Il protège pour autre chose, mais pas pour ça. Et le seul masque qui pourrait protéger efficacement contre le coronavirus, c'est le FFP2 et le FFP3. Mmh. Or, c'est pas ces masques-là que le gouvernement nous a imposés. C'est ça le truc. Vous comprenez?
Oui. Je comprends, et en même temps, je comprends. Et alors, il y a aussi, vous le savez, le Covid, hein, qui connaît donc une remontée, hein, aujourd'hui. Là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et vous dites l'épidémie est en voie de disparition.
Oui. Oui.
Sur quoi vous appuyez?
On s'appuie sur des interviews de scientifiques. Vous savez, un virus, il y en a déjà d'innombrables virus qui nous entourent.
Alors, on nous invente tous ces variants-là depuis peu? On nous invente tous ces variants, c'est quoi alors?
Ah, mais non, les variants, c'est un réel. Le propre d'un virus, c'est muté. Mais plus le virus mute, et c'est pas moi qui le dis, c'est des professeurs comme Raoult, Perron, etc. Plus un virus mute, et moins il est dangereux. Et de toute façon, ça a même été relayé par la grande presse. Hein. Plus un virus mute, moins il est dangereux. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'un virus va muter. Maintenant, est-ce qu'on va continuer cette espèce de cirque, je dirais, sanitaire, jusqu'à quand? C'est là tout le problème. Quoi.
Jusqu'à quand, Claude Janvier? Vous avez écrit un livre avec Jean-Louis Zambert aux éditions IS Éditions. Le Covid-19, le bilan en 40 questions. Retour sur 2 ans d'info-intox. Oui, je peux dire aux auditeurs qu'allez vous le procurer. Il faut le lire, c'est vrai. Le lire, si ce n'est que pour une chose, se renseigner. Finalement, ce sera l'une de mes dernières questions. Celles et ceux qui ont décidé de prendre une responsabilité, c'est-à-dire de se faire vacciner. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui, dans les mois, dans les années à venir, pour eux, pour elles?
Écoutez, en lisant notre livre, je crois qu'en lisant notre livre, ils auront la réponse à la question.
Moi, quand je lis votre livre, ça m'effraie quand même. Hein.
C'est vrai?
Je sais pas, je me dis, quand on se fait vacciner, on peut s'attendre à de choses terribles.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne rien avoir, et vous pouvez très bien malheureusement avoir des effets secondaires. Il est malheureusement, ce sont des liquides expérimentaux
et qui ont été... Vous parlez beaucoup de myocardite, justement.
Oui, ce sont des scientifiques qui en parlent. Apparemment, il y en a de plus en plus. Oui, c'est désolant. Hein. Je ne veux pas passer pour un oiseau de mauvaise augure, mais je trouve ça même assez consternant. Mais malheureusement, c'est de plus en plus prouvé aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'effets secondaires nocifs.
Vous-même, je vous pose une question complètement, parce que vous en parlez. Vous êtes vacciné vous-même?
Non.
Non?
Non. Pas contre le coronavirus. Je suis vacciné pour tout un tas de choses, diphtérie, tétanos, poliomyélite, etc. Je ne suis pas anti-vax. Je suis juste pour ces vaccins ARN messager. Je suis juste, d'après l'enquête qu'on a faite, c'est très...
Justement, dans l'enquête, vous dites il y a 2600 cas d'effets indésirables pour lesquels le vaccin est confirmé ou suspecté par semaine. Dites que, en gros, il y a des effets secondaires qui sont en constante augmentation.
Oui. D'après les rapports officiels, oui, ce sont des rapports officiels. Hein. C'est toujours pas mes opinions, ni à Jean-Louis, ni à moi. Hein. Le grand mal, nous allons à la recherche des chiffres dans des documents officiels.
Et en plus, vous allez loin, vous poussez votre enquête loin, vous dites le Pfizer. Il totalise un nombre impressionnant de défaits secondaires. Vous parlez de troubles du rythme cardiaque, de pancréatite, de troubles menstruels. Le Moderna, vous dites déséquilibre, amnésie, troubles auditifs, surdité, perte de connaissance. Et l'AstraZeneca, vous dites élévation de la pression artérielle, paralysie faciale, baisse de l'audition. C'est certifié tout ça, mon cher Claude Janvier ?
Ouais, c'est dans le Vidal. Le grand problème, c'est que si vous ouvrez le Vidal, vous savez, la Bible des médecins, vous regardez les notices des vaccins Pfizer.
Bah Moderna, moi, les scientifiques que j'ai eus à l'antenne m'ont dit le contraire. Bon.
Ah bah, moi, j'ai lu le Vidal. Et dans le Vidal, bah, je suis désolé, hein, quand vous regardez les effets secondaires possibles, bah, c'est marqué.
Bon.
C'est marqué. C'est juste écrit, vous savez. C'est là,
bon,
c'est
bah moi j'ai envie de dire, allez-vous faire votre propre idée. Moi je ne suis pas là, oui, évidemment, pour orienter quoi que ce soit. Si vous voulez lire le livre, allez-y. Covid-19, le bilan en 40 questions aux éditions IS Éditions, retour sur 2 ans d'infos et d'intox par les auteurs justement du best-seller Le Virus et le président Jean-Louis Zambert. Et c'était Claude Janvier qui était notre invité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui ? J'avais envie de vraiment consacrer cette interview qu'autour de votre ouvrage que je trouve très intéressant et aller vous faire votre propre idée justement. Vous leur dites quoi, les auditeurs ?
Eh bien ça, allez-vous faire votre propre idée. Je pense qu'il faut prendre aujourd'hui un point de vue un peu extérieur à tout ça et essayer d'avoir un point de vue un peu plus dégagé de ce torrent d'informations qui nous a été assénés. Et à ce moment-là, prendre du recul. Et rien de tel de prendre du recul, de regarder effectivement, de s'appuyer sur des enquêtes très et minutieuses. Voilà.
Bon. Eh ben merci Claude Janvier d'avoir été avec nous, co-auteur donc de Covid-19. Merci. Je vous souhaite évidemment de plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt sur notre antenne. On devait encore parler de plein de sujets, mais on aura l'occasion de revenir sur ces sujets évidemment, puisque je sais que vous vouliez parler du colloque. Allez, en quelques secondes, le colloque qui nous attend.
Eh bien, écoutez, on a eu beaucoup de soucis avec notre colloque, effectivement, pour la paix en Syrie. On s'est fait sucrer notre salle parce qu'il y a eu soi-disant des pressions. Donc, on continue, on fera ce colloque. Mais pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas communiquer l'adresse parce que vous comprendrez que, voilà. Mais il y a mon email qui circule un peu partout. Si des gens ont envie de venir, ils sont les bienvenus. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Avec plaisir. Quand on dit que c'est en liberté totale et liberté d'expression, vous l'aurez remarqué quand même. Hein. Merci Claude Janvier, à très bientôt. Allez, on marque la première pause publique. On se retrouve avec les maestros, le face-à-face. Rafik, bonsoir.
Bonsoir.
Oh là là,
invité encore une fois.
Un élu de Rueil Malmaison.
Exactement, qui a pris peut-être plus d'une heure et demie.
Qui était dans les bouchons.
15 minutes.
Et on le remercie rien que pour ça. Rien que pour ça, on te remercie, mon cher Rafik. Jimmy, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Allez, c'est parti, première pause pub, on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h25, vous savez quoi, on va aller dans la direction 19e, 20e, juste retrouver notre reporter, Mehdi Jaziri. Mais avant tout, nous allons commencer à parler justement du face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Rafik Temgari, ça va ?
Très bien, on est toujours bien.
À Rueil Malmaison, absolument, toujours. Vous êtes à la maison ici. Hein.
Avec plaisir.
Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Le syndicaliste, représentant syndicaliste CGT, mais aussi également l'auteur de plusieurs articles, effectivement. Messieurs, tout de suite, on va commenter cette actualité. Manuel Valls, fin de partie ou pas du tout ?
Bah, j'espère pour lui.
Hein, rappelons juste pour les auditeurs, candidat de la majorité présidentielle, l'ancien Premier ministre a été battu au premier tour des élections législatives dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Alors, fin de partie ?
Oui,
une gifle.
Bah, j'espère.
Un KO.
On dit très souvent que encore un politicien qui veut manger à tous les râteliers. Donc là, c'est pas bon. On connaît un petit peu son historique. Il faut dire que la finalité de l'histoire, c'est de rester droit dans ses bottes et toujours fidèle à sa famille politique. Parce que lui, il a vraiment passé du coq à l'âne, comme on dit l'expression française, bien de chez nous. C'est quelqu'un qui a été, pour citer juste un petit historique, c'est quelqu'un qui était au début de sa mandature. mandature, il était pro-palestinien, et à la fin de sa mandature, il est devenu anti-palestinien. Et
ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Je comprends qu'il est souhaitable de rester droit dans ses bottes, de défendre ses valeurs, même si on se fait des ennemis, même si on se fait des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui n'analysent pas la même chose que nous, mais on reste toujours fidèle à ses idées politiques. Et ça, c'est très important.
Jimmy Dalidou.
Ouais, alors non, mais Manuel Valls, franchement, il a été. Moi, je me pose une question. Comment on peut encore mettre en exergue, que ce soit dans les médias ou ailleurs, ou en tout cas le présenter comme quelque part, on le présente toujours comme un politicien qui aurait un ancrage social en France, alors que il a été. Les Français l'ont rejeté. Il n'a pas été. Les Barcelonais n'en ont pas voulu. Il a été humilié par les Français de l'étranger lors des derniers votes. Donc à un moment il s'est barré. Ce mec, je vais vous dire franchement, ce gars-là il pue l'opportunisme à 4 km en fait.
Ouais. L'opportunisme,
c'est ça en fait, c'est la particularité de l'opportunisme en fait, c'est le fait de justement tu parlais de coq à l'âne, c'est le fait de passer d'un siège à un autre, du passé de coq à l'âne, c'est la particularité de l'opportunisme.
Ça fait plusieurs lourdes défaites quand même. Il y a eu Barcelone, il y a eu la France, maintenant les législatives, ça fait beaucoup quand même.
On lui conseille de prendre sa retraite, je pense qu'il est temps.
Il a fermé Twitter, tiens son compte.
Moi, Twitter, c'est juste un réseau social, donc je pense qu'il
faudrait qu'il passe. Ah, si, petite particularité quand même. Faut pas oublier que c'est quand même le gars qui a fait passer la loi travail par 49.3. Mmh. Il a quand même défendu la déchéance de la nationalité pour les binationaux. Il a, c'est comme lui sur le marché d'Ivry qui avait dit, qui parlait des whites, il n'y avait pas assez de whites entre guillemets. C'est aussi le gars qui s'est barré à Barcelone, on va c'est toujours moins de le rappeler. Donc en fait, pour moi, il représente la dégénérescence de la gauche.
Waouh, la dégénérescence.
C'est simplement ça. Ah, dommage. Je pense qu'il faut qu'il prenne sa retraite et je pense que c'est mieux pour lui en fait.
Monsieur, je veux juste aller direction, vous savez quoi? Je veux juste, parce que événement exceptionnel et puis actu exceptionnel, nous sommes avec Mehdi Jaziri qui est en pleine immersion. On va parler du crack à Paris. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Adil, comment tu vas?
Bonsoir, très bien. Vous avez endossé l'habit d'un toxicomane et vous avez décidé surtout d'aller filmer et de raconter justement ce crack à Paris. Alors qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce qui vous a interpellé, mon cher Mehdi Jaziri? Vous êtes à Paris 20e, hein?
Alors je suis entre le 20e et le 19e, je suis à Porte de la Villette exactement. Donc, je suis toujours en fait à Porte de la Villette, je suis encore en immersion à l'heure actuelle où je vous parle en fait. Je suis même accompagné d'un toxicomane qui s'appelle Mohamed Ali. Donc en fait, voilà, moi ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est le contraste entre ce qu'on voit à la télévision et ce qu'on voit en fait sur le terrain. C'est-à-dire que certes, il y a de la violence, il y a une prostitution qui est incroyable, donc on ne parle pas de tout d'ailleurs.
Oui.
Des filles là-bas de prostituées, mais vraiment toutes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui ne se prostitue pas, quoi.
Oui.
Il y avait même des mineurs. Là, m'a parlé d'une fille de 16 ans qui le fait aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, et ça, je tiens à le dire, c'est aussi l'humanité et la solidarité qu'il y a.
Entre qui? Entre eux? Entre les toxicomanes?
Entre les toxicomanes, oui. Et même ceux qui ne le sont pas, la preuve, moi, j'en suis pas un. J'en suis pas un. Mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont pris un peu sous leur aile, entre guillemets, parce que ce qui s'est passé au départ.
Donc il y a une vraie solidarité. Pourquoi vous avez décidé de faire une immersion pour un reportage spécial pour parler du crack à Paris?
Parce qu'en fait, j'en ai assez qu'on parle des riverains qui en ont marre. Et puis j'en ai assez aussi qu'on interviewe des toxicomanes. D'ailleurs, il faut dire un truc, c'est que beaucoup de journalistes payent les toxicomanes. Et j'en ai la preuve, Mohamed Ali a été témoin justement de ça. Mohamed Ali pourrait très bien vous le dire, si vous voulez, je peux vous le passer aussi. Il a été témoin de journalistes qui payaient des toxicomanes. Donc en fait, c'est des interviews qui sont quand même un peu factices. Donc moi, je me suis dit, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est d'être à l'intérieur.
Vous avez parlé des riverains, mais les riverains, ils sont de plus en plus inquiets, Mehdi.
Oui. Oui, forcément, ils sont beaucoup plus inquiets. Enfin, il y a la télévision qui joue beaucoup là-dessus. Et en même temps, il y a la réalité qui fait qu'il y a une énorme violence, que la police ne fait pas grand-chose.
Voilà. Alors, il fera l'objet d'une diffusion, votre reportage, Mehdi Jaziri?
J'aurais terminé le reportage d'ici quelques heures. C'est ouvert aux médias qui le veulent. Voilà, c'est clairement...
On lance évidemment le Média Télé, hein.
Média télé ou média en ligne, les deux me vont. En fait, moi, le but du jeu, c'est vraiment de toucher un maximum de monde.
Eh ben, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Pour Mehdi Jaziri, cherche un diffuseur. Donc immersion totale pour parler du crack à Paris. Merci Mehdi Jaziri. Bon courage, prudence à vous quand même Mehdi. Hein.
Merci Adil Farkan, pas de soucis. Vous inquiétez pas, je suis bien accompagné, je suis avec Mohamed Ali, il n'y a aucun souci.
Merci à vous. Prenez soin de vous.
Vous aussi, au revoir.
Le Quoi de Neuf, et on revient tout de suite avec vous messieurs. Le Quoi de Neuf avec Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonsoir ma chère Faïza Ben Mohamed.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Comment ça va bien?
Ça va très bien.
Bon, vous avez décidé de consacrer justement votre billet d'humeur dans un sujet extrêmement sensible. On en parle souvent régulièrement. C'est la légitime défense des policiers et le refus d'obtempérer. On vous écoute ma chère Faïza.
Oui Adil, vous n'avez pas pu passer à côté. Hein, j'imagine comme tous nos auditeurs, depuis samedi, il y a eu un terrible drame qui s'est joué dans le 18e arrondissement de Paris où trois policiers ont ouvert le feu sur un véhicule pour un prétendu refus d'obtempérer. Et depuis samedi, les débats vont bon train entre classe politique et dans tous les médias où chacun s'interroge sur cette notion de légitime défense, de présomption de légitime défense. Et il y a une certaine hystérie qui s'est emparée un petit peu de la classe politique. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je trouve ça aberrant qu'en 2022, on puisse se permettre sur des plateaux de télé de légitimer l'usage d'une arme à feu sur un véhicule pour un refus d'obtempérer. Mmh. Alors je sais que c'est quelque chose qui est peut-être pas audible, mais et là je parle pas en tant que journaliste, même si je sais que c'est pour ça que vous me donnez la parole, mais en tant que famille de victimes de crimes policiers,
oui.
Je voudrais que chacun comprenne que c'est des choses qui sont pas du tout acceptables pour des gens qui ont perdu un membre de leur famille par un crime policier, au cours d'un contrôle de police, au cours d'un contrôle routier, ou peu importe. La peine de mort n'existe pas en France, et j'aimerais bien, s'il vous plaît, par respect pour les familles victimes, qu'on arrête ce type de débat et qu'on arrête de vouloir légitimer l'usage des armes à feu sur des contrôles policiers.
Vous avez bien raison, évidemment, de soulever la question, l'interrogation et d'en parler. On va en parler justement avec Rafik Temgari et Jimmy Dalido dans une poignée de minutes. C'est le sujet, justement, sur lequel on va s'attarder et commenter et surtout apporter un éclairage. Faïza Ben Mohamed, à mardi prochain, sans faute.
À mardi prochain.
Prenez soin de vous. Allez, c'est merci parti, on lance la pub et on se retrouve dans une poignée de minutes, justement avec ce refus d'obtempérer, comme vient de le souligner Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante, qui est avec nous tous les mardis pour son Quoi de Neuf. On en parle avec Jimmy Dalidou et Farid Temgari. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h40, 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir bien sûr sans aucun problème. Des témoins de la scène soutiennent de leur côté que le véhicule ne circulait pas à une vitesse excessive et n'a pas effectué de démarrage en trompe, refus d'obtempérer à Paris. Alors les policiers ont ressenti l'urgence de réagir, affirme leur avocat pour justifier des tirs. De l'autre côté, on a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui assume évidemment ses propos sur la police qui tue. Rafik.
Alors,
Temgari, vous dites quoi?
Sincèrement, moi je pense qu'il y a, encore une fois, on a la chance d'être dans un pays où il y a une vraie sécurité. On a des caméras. Moi, je pense que c'est assez tôt pour pouvoir se prononcer. Il faut faire confiance à la justice de ce pays-là. Et c'est la justice qui va se prononcer. Donc, je pense que la justice fait bien la part des choses. Et c'est une affaire quand même qui est très délicate. Pourquoi elle est délicate? Parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne détient l'ensemble des éléments. Ni vous, ni moi. Donc, dans le sens où il faudrait suivre
cette
affaire.
Est-ce qu'il fallait tirer?
Alors, encore une fois, je ne vais pas dire qu'on vit dans une société de cow-boy où on va juste sortir sans revolver au premier petite réaction d'un citoyen. Il faut faire, encore une fois, toute la lumière sur cette affaire-là. Je suppose qu'il doit y avoir des caméras de surveillance dans le lieu, qu'il y a la police des polices, et ça, c'est quelque chose de bien, encore une fois. S'il n'y avait pas eu la police des polices, peut-être qu'on va dire oui, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme il fallait. Mais aujourd'hui, on doit faire confiance à nos institutions.
Jimmy,
aujourd'hui,
Jimmy Dalidou,
deux
éléments,
je pense qu'il y a un véritable problème dans la police nationale dans ce pays. Je vous rappellerai quand même que ce cas n'est pas c'est pas nouveau en fait. Je vous rappellerai que entre janvier 1977 et décembre 2019, c'est pas moins de 676 morts causées par la police nationale. Entre autres, Malik Oussekine, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Zineb Redouane, Steve Calico, Cédric Chouvia, entre autres, hein, ont été tués par des forces de l'ordre. Donc la question qui se pose, c'est pour revenir à ce que disait Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Je suis d'accord avec cette affirmation, la police tue. Parce qu'il faut se poser la question de manière scientifique.
Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais il faut persister ici. Est-ce que tuer, ça veut dire ôter la vie d'une personne? Après, la question qui se pose, c'est quelles sont les causes qui ont poussé la police à tirer sur une personne?
Oui, mais c'est ce que
quelles sont les causes
aujourd'hui?
Le problème qui se pose, c'est que la plupart du temps, les circonstances te démontrent qu'en fait, l'usage des armes n'était pas la meilleure solution. Et on l'a vu dans la plupart des affaires.
Alors heureusement que les policiers, ils ont leurs armes.
Heureusement que les policiers
ont bien leurs armes, parce que je rappelle les attentats terroristes, c'est les policiers qui ont abattu les terroristes.
Bah heureusement qu'on n'est pas tous terroristes. Il n'y a pas que des terroristes en France.
C'est pas ce que je dis. Mais je dis aussi que c'est pas
celui qui
est pas toute la police
qui est dans la voiture, c'est un terroriste.
Alors il faudrait au contraire saluer le travail des policiers, et heureusement que les policiers sont là, parce que les policiers sont là pour surveiller.
Donc pour toi, tous les policiers sont bons, sont gentils, sont très professionnels. Il n'y a pas de policiers fascistes. Il n'y a pas de etc.
Est-ce qu'on peut s'écouter? Donc ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que heureusement que la police elle est là, et que demain s'il y a vraiment...
Bah, tu penses dans la police d'une manière générale?
Bah oui, bien sûr.
Ah, mais ça veut dire que pour toi il y a pas de problème dans la police?
C'est pas ce que je dis. Je dis pas que une fois que heureusement que la police elle est là, elle est là pour le citoyen.
Mais tu fais quoi donc pour toi tous les policiers sont gentils?
Alors,
et
aujourd'hui,
ils sont bien leur boulot.
Aujourd'hui,
ça veut dire que les 676 morts, c'est normal.
Pour finir, aujourd'hui il y a eu aussi un autre incident. C'était à Argenteuil, et la police en parle. Donc il n'y a pas du tout de secret avec la police. La police est assez transparente. C'est qu'il ne faudrait pas que c'est les commentateurs comme nous qui commentent le travail de la justice, et laisser la justice faire son travail.
Donc il y a eu des policiers qui ont été... J'espère qu'elle fera bien. On est parti d'un fait, d'accord, qui était qu'il y a eu une voiture, il y a eu des problèmes... Et un policier a fait usage de son arme et il a tué une personne. Donc, objectivement, est-ce que c'est un élément objectivement avéré?
Vous parlez de...
Quelles sont les circonstances, les causes qui ont poussé à...
Vous n'avez pas les...
Moi, je voulais revenir sur un truc.
Est-ce que vous étiez sur place pour
écoutons-nous, parce que j'ai eu des auditeurs qui nous ont dit, il faut que chacun, évidemment, écoutez-vous les uns les autres. Sinon, après, c'est la cacophonie.
Il y a un problème institutionnel dans ce pays. Je crois qu'il y a un véritable problème idéologique au sein de la police nationale. Je crois que je parle bien de l'institution. L'institution
idéologique, c'est-à-dire
idéologique, ça veut dire qu'il y a un véritable
problème. Non, extrémistes.
Il y a certains policiers qui sont clairement... Alors, pour dire que la police, d'une manière générale, est fasciste, c'est faux.
Bah oui,
mais certains éléments policiers sont des éléments fascistes. Ils ont tendance à utiliser leurs armes d'une manière,
Sachez, monsieur, que il y a énormément de policiers nationaux.
Et je dirais que la police, dans un pays impérialiste, ce sont des détachements spéciaux d'hommes armés au service d'un État qui est lui-même un organe de domination et de répression d'une classe par une autre.
Alors moi,
et on l'a vu pendant les Gilets jaunes, monsieur. Les LBD, c'est pas des armes de guerre.
Je dis merci
à la police. Les travailleurs qui avaient des revendications et qui les mettaient en exergue d'une manière pacifiste, on leur a tiré dessus à coups d'armes de guerre.
Rafik Tamgari.
Merci Adil de me donner la parole, parce que avec Jimmy, c'est pas du question-réponse.
C'est le syndicat.
Alors,
s'il vous répond.
Sinon, je vais pas parler.
Rafik, si vous ne laissez pas parler, on peut pas installer un débat.
Alors, deux choses. Les policiers, heureusement qu'ils sont là. Et très peu de personnes les remercient. Parce que si on va dire 90% des bons policiers qui sont là, heureusement qu'ils sont là. Parce que la délinquance, elle existe, et heureusement que les policiers sont là. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, je ne vois personne remercier la police.
On traite d'un fait divers
reviens sur le fait divers.
On ne parle pas des bons policiers.
Tous les exemples que vous avez cités, aujourd'hui, la justice ne s'est pas prononcée.
Sur les faits, ça a été jusqu'au Conseil d'État.
Mais c'est long, ça date de 86.
Mais il y a eu énormément. Ce que je dis, c'est des affaires qui sont assez délicates, qu'on parle avec les sentiments, alors qu'il faudrait être objectif.
Sur Jean-Luc Mélenchon, la police tue.
Moi,
je voulais réagir.
Est-ce que la police tue?
Alors, Jimmy Dalidou, lui, soutient les propos de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites quoi, vous?
Moi, je dis que Jean-Luc Mélenchon est aussi un extrémiste de gauche. Pourquoi? Parce que il joue la surenchère politico.
Donc le NUPES était un organe d'extrême gauche.
Non, c'est pas ce que je dis. Encore une fois, c'est très facile de faire des.
Ah non, c'est tout simplement
un lien dialectique. Mélenchon, pour moi, il joue sa dernière carte politique. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'a pas été présent dans le deuxième tour des élections, et c'est la seule carte qu'il veut avoir pour pouvoir avoir un peu plus de poids. Donc, il utilise tout ce qu'il peut en sa possession pour pouvoir argumenter. Alors, la police tue. Je suis désolé. Il disait que c'était lui la République. C'est ce qu'il a répondu aux policiers.
Juste
le voir. Donc, si c'est lui la République, il doit protéger l'ensemble des corps de la République. Et la police en fait partie.
Juste une petite Jimmy précision quand Jimmy même. Parce que qu'on me fasse pas dire ce que
Darmanin lui a répondu, une mise là.
Ouais, non, mais qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, pendant les Gilets jaunes, par exemple, et il y a eu des positions qui ont été mises en avant.
Les insultés déshonorent ceux qui veulent gouverner. A réagi le ministre de l'Intérieur.
Il y a eu des positions provenant de la police nationale. On ne les a pas écoutées. Je pense notamment à l'UPNI et à Vigipolice. Eh bien, moi, pour moi, la police, la position de l'UPNI et de Vigipolice, ça, c'est une position de la police qui est à soutenir. Parce que qu'est-ce qu'ils t'ont dit? L'UPNI et Vigipolice, ils t'ont dit à l'époque des Gilets jaunes que quand t'es policier et que tu tapes sur le peuple en mouvement, que tu tapes sur le peuple avec ses revendications, alors, tu tapes sur l'intérêt général et tu te tapes dessus, tu te tapes sur toi-même. Et si t'as pas compris ça en tant que policier, c'était pas un policier.
Alors c'est pour ça il faut connaître
et
les policiers.
Et c'est cette position-là qu'on doit
défendre. Policiers. La dernière fois que tu es parti voir un commissariat, ça date à quand? Parce que je peux te dire que quand tu visites des commissariats,
en plein mouvement gilets jaunes.
Bah oui, non, mais
pendant les gilets jaunes,
non, mais c'est bon de parler de la police et ne pas être à l'intérieur. Mais pas du tout. La police, heureusement encore une fois, qu'elle fait très très bien son travail et il faut au contraire la soutenir.
Bah t'as pas répondu concernant le chauffeur. Est-ce qu'on aurait dû tuer?
Certes, non, mais pas du tout. On n'est pas là pour imposer une société de violence. On est là pour trouver des solutions. On est là pour trouver un dialogue. Aujourd'hui, il y a énormément de policiers qui sont issus de la diversité. Et ne me dis pas qu'on
ils
va
sont
mettre...
Nombreux. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Ils sont nombreux, si. Ils sont nombreux.
Moi, j'étais à Suresnes, j'étais à Rueil-Malmaison.
Franchement, je les vois aujourd'hui de plus en plus.
Et sincèrement,
de plus en plus
je
de Français
arrêtez de stigmatiser.
Ils sont franco-maghrébins ou franco-suissariens.
C'est pas une question de stigmatisation.
Mais aujourd'hui, on met la police...
Les mauvais flics, il faut les écarter, point barre.
Mais c'est ce
les mauvais flics, tu les écartes.
C'est la
le problème qui se pose, c'est que les mauvais flics,
la police des
ils ont tendance à être couverts par
ça
la police des polices et par la justice. Justement.
C'est ce que je dis. La police des polices,
c'est ça le problème.
Et ça, c'est la chance qu'on a en France.
Messieurs, nous allons poursuivre avec ce dernier sujet qui a retenu notre attention. Vous savez, oui, je sais que le débat peut continuer et il s'impose. Je veux juste parler qu'on parle de cette faible mobilisation générale. On parle de à peine moins de 300 manifestants à Paris. Est-ce que les personnels hospitaliers qui ont manifesté aujourd'hui ont raté leur mobilisation puisque c'était pour réclamer les hausses de salaires et d'effectifs, pour notamment le résultat de la mission Flash qui a été commandée par Emmanuel Macron. Alors, un raté?
Je dirais que il faut jamais oublier le travail titanesque qui est fait par les blouses blanches.
Absolument.
Pour rappel, pendant le Covid, on les applaudissait tous à 20h et que ça, pour nous, c'était quelque chose qui était vraiment une reconnaissance. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est que l'après-Covid, donc aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement en place mette des solutions rapides, ne pas attendre que le rapport qui va sortir le 30 juin, mais plutôt faire un signe. Ce matin, je lisais un article qui parlait des médecins qui sont en CDI, qui démissionnaient pour reprendre de l'intérim. Pourquoi? Parce qu'ils gagnaient beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a moyen de revoir un petit peu l'ensemble des missions des blouses blanches, et surtout les infirmiers et les infirmières, où, c'est vrai, encore une fois, je parle de mon département que je connais bien, l'hôpital Foch en risque de fermer les urgences, donc c'est problématique. Donc l'ensemble des citoyens, ils sont dans l'inquiétude. Il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. On sait que 80 millions,
arrêtons de quémander auprès du gouvernement. Le premier, il est là, le problème que vous faites, il est là. Vous êtes toujours en train de quémander auprès du gouvernement.
Jimmy Dalido, alors vous dites quoi?
Non mais franchement, cessons de quémander auprès d'un gouvernement. En fait, c'est la cause de notre problème. Et vous êtes toujours en train de demander des solutions à des personnes qui sont la cause de nos problèmes. Vous êtes totalement irrationnel. Le problème, c'est que l'hôpital était un hôpital public. La question qui se pose, c'est d'abord la question du service public. Cessons d'abord de parler de service public. Le service public n'existe plus. Je travaille moi-même au chemin de fer, il n'existe plus. Il a été pulvérisé sur l'autel du profit. Voilà, on devrait parler de régénération du service public sur des bases convenables.
Le PHP, donc, c'est public. Moi,
ce qui me gêne, c'est pas privé.
Sinon, on va tout privatiser dans ce cas-là.
Comment?
Donc, l'hôpital, ça reste public. C'est de la mission publique.
Non, c'est plus public.
Si,
je sais pourquoi c'est plus public.
Alors, dis-moi.
depuis que Raffarin en 2007 a pris les Français pour des cons avec son partenariat public-privé. Tu sais c'est quoi le PPP, le partenariat public-privé?
Non.
C'est ce leurre qui consiste à faire croire que le capital privé peut subsister auprès du capital public, alors que c'est un processus d'absorption du service public par les monopoles capitalistes, c'est-à-dire les multinationales.
Alors, il faut juste dire qu'aujourd'hui, il faut encore une fois aussi soutenir l'ensemble des blouses blanches et que l'argent, on le trouvera pas.
On ne va pas le trouver
au sol. Il faudrait impérativement que le gouvernement mette en priorité,
sur le fait,
comme il a fait le pouvoir d'achat. Je finis sur ça. Comme il a fait en priorité le pouvoir d'achat, il faudrait que la santé, parce que la France, elle a très très bien géré la phase Covid 1. Donc s'il va y avoir
une dictature militaro-sanitaire qui était imposée aux Français. Point. Non, mais je reviendrai sur juste un truc, c'est que moi, ce qui m'agace un peu, franchement, vous dire, franchement, c'est pendant le confinement, on les a applaudis pour faire bouger dans le paysage, et maintenant qu'ils sont en lutte, il n'y a personne pour les aider.
Ça c'est vrai.
Donc là il faut y aller.
Rafik Tabgari élu à Ruelle ma maison. Merci infiniment.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être là.
Vraiment.
C'est toujours
un
plaisir.
Face à face ou évidemment toujours deux idées différentes et deux points de vue qui sont confrontés de façon respectable.
Avec plaisir.
Jimmy Dalidou, représentant donc syndical CGT, auteur. Merci.
Merci à tous.
Au plaisir. Aya Yanis à la réalisation. Tout de suite, c'est Bilal Lendman, le Time Sport Show. C'est de 20h à 21h. À demain, mercredi, avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.